Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En direct sur Radio Saféréole, l'émission qui compte. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Avec Sophie au micro et Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Saféréole et de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est bientôt mon anniversaire. Alors j'ai décidé de me faire un cadeau en espérant que ce serait aussi un cadeau pour vous. Aujourd'hui, nous allons partir dans un pays cher à mon cœur, le pays des Maharajas, mais aussi le pays des intouchables, le pays des palais et des bidonvilles, le pays aux plus de 200 langues et aux 35 états, bref, un voyage en Inde. Et je vais vous parler des contes du vampire. Ces contes se passent dans l'Inde du 6e, 7e siècle, et sans doute ils se sont transmis très longtemps, de bouche à oreille, et ils ont été fixés une première fois par l'écriture en langue sanscrite vers le 11e siècle. Dans ces contes, le héros, c'est un roi, le roi Trivikramasena, qui est le symbole de la sagesse et de l'intelligence et de la perspicacité. Et ce roi doit surmonter des épreuves que lui impose un magicien maléfique déguisé en moine mendiant. L'épreuve consiste à aller décrocher en pleine nuit un cadavre qui est pendu à un arbre dans un cimetière et à l'apporter au magicien, donc en cheminant en pleine nuit à travers les squelettes, les ombres, les fumées des bûchers funéraires, les hurlements des chacals et tous les esprits et tous les fantômes qui traînent dans cette obscurité profonde. Un vampire, donc ça a été traduit par vampire, en fait il s'agit d'un esprit, ça n'a rien à voir avec nos vampires suceurs de sang. Donc un vampire est caché dans le cadavre. Et durant le trajet entre l'arbre et l'autre bout du cimetière où se trouve le magicien maléfique, le vampire va raconter une histoire au roi. Cette histoire se termine toujours par une énigme. La tête du roi éclatera s'il connaît la réponse à l'énigme et qu'il ne la donne pas. Mais dès que le roi parle et donne cette réponse, le cadavre avec le vampire à l'intérieur retourne se percher dans l'arbre et le roi est obligé de retourner sur ses pas, de décrocher de nouveau le cadavre et de reprendre le chemin jusqu'à l'autre bout du cimetière. Il y a en tout 24 énigmes, 24 histoires. Le roi va donner la bonne réponse aux 23 premières. Mais pour la 24e, il ne connaît pas la réponse, il n'arrive pas à résoudre cette énigme, heureusement pour lui, parce que c'est ce qui va lui permettre de triompher du vampire et aussi donc de l'infâme magicien qui le menaçait et qui menaçait l'humanité tout entière. Donc voici un des contes du vampire. Il était une fois un brahman nommé Harisvamin. Ce brahman sage entre les sages vivait avec sa femme, son fils et sa fille. Sa fille qui s'appelait Somaprabha, ce qui veut dire qui a l'éclat de la lune. Autant dire que c'était une jeune fille très accomplie et d'une grande beauté. Un jour, son père lui a dit « Eh bien, ma fille, il va être temps pour nous de te chercher un époux. » Somaprabha a répondu à son père, « Écoute, moi je ne suis pas contre l'idée de me marier, seulement je ne veux pas épouser n'importe qui. Je veux épouser soit un très valeureux guerrier, soit un artisan capable de produire des objets magiques, soit un jeune homme qui ait des dons de divination. Je ne veux épouser personne d'autre, sinon je préfère mourir. » Le père était décidé à accéder à la requête de sa fille et il a commencé à chercher le prétendant idéal. Puis il a été envoyé comme ambassadeur dans le royaume du Deccan. Là, il a rencontré un jeune homme qui justement cherchait une épouse. Ma fille est d'une grande beauté, a dit Arisvamin, mais elle désire pour époux seulement un valeureux guerrier, un artisan capable de fabriquer des objets magiques ou un devin. Est-ce que tu aurais une de ces trois qualités ? Oui, oui, a répondu le jeune homme. Moi, je suis capable de fabriquer des objets magiques. Eh bien, montre-moi ça, a dit Arisvamin. Et le jeune homme a fabriqué alors un char capable de voler dans les airs. Il a invité le brahmane à monter à côté de lui dans le char et ensemble, ils se sont envolés dans le ciel pour une promenade au milieu des nuages. Le brahmane était émerveillé et très satisfait. Ce jeune homme lui semblait le mari idéal pour sa fille. Et une fois qu'ils ont été redescendus au sol, il lui a proposé de venir 6 jours plus tard rencontrer la jeune fille, Somaprabha, et demander sa main. Mais pendant ce temps, le frère de la jeune fille était allé trouver son meilleur ami. Il lui avait dit « Écoute, ma sœur doit se marier, elle veut épouser soit un valeureux guerrier, soit un artisan qui a des pouvoirs magiques, soit un devin. Et toi ? Toi, et personne ne manie les armes aussi bien que toi. Et sûrement, tu serais un mari idéal pour Somaprabha. En plus, comme ça, tu rentrerais dans la famille. » L'ami qui avait entendu parler de la beauté et de toutes les qualités de la sœur de son ami a bien sûr accepté. Et ils ont convenu qu'il vienne 6 jours plus tard faire sa demande et rencontrer la jeune fille. La mère de Somaprabha, elle, n'était pas non plus restée inactive. Elle était allée trouver une de ses voisines et elle lui avait dit « Ma fille est une beauté et en plus elle est couverte de vertu, mais elle ne veut comme époux qu'un valeureux guerrier, un artisan qui ait des pouvoirs magiques ou un devin. Ton fils a, je crois, des pouvoirs de divination ?»« Mais oui, a dit la voisine, aussitôt elle a appelé son fils. » Et la mère de Somaprabha a interrogé le jeune homme. Elle lui a demandé où se trouvait actuellement son mari. Le jeune homme s'est concentré et a répondu qu'il se trouvait dans le royaume du Deccan. Comme c'était vrai, la mère de Somaprabha a été très admirative de ses qualités de divination et elle lui a proposé de venir dans 6 jours rencontrer sa fille et peut-être, bien sûr, demander sa main. Arisvamin, le brahmane, est revenu de son ambassade et 6 jours plus tard, les 3 prétendants se sont présentés en même temps à la porte de la maison. Arisvamin était bien ennuyé. Chacun avait des qualités qui pouvaient en faire un époux pour sa fille. Alors comment choisir entre les 3 ? Il est allé chercher Somaprabha, mais la jeune fille avait disparu. On l'a cherché dans toute la maison, tout le monde l'a appelée, on a regardé dans le jardin, dans toutes les pièces. Elle était introuvable. Alors le candidat de la mère, celui qui avait des pouvoirs de divination, a dit « Eh bien, attendez ». Il s'est concentré et il a dit « Voilà, je sais où elle est. Elle a été enlevée par un démon qui vit dans la forêt dans une grotte. » « Eh bien, vite, a dit le jeune homme qui était un artisan habile, je vais construire un char capable d'aller la retrouver. » Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait fabriqué un char et il y a fait monter ses 2 rivaux, ainsi que le père de la jeune fille, et ils se sont envolés à grande vitesse dans le ciel. Et ils ont volé par-dessus la forêt jusqu'au repère du démon. Là, ils se sont posés et aussitôt, les 3 prétendants sont descendus. Le démon est sorti de sa grotte, dérangé par le bruit. Oh, il avait une allure féroce, de grandes dents dans une bouche énorme, des yeux rouges qui semblaient lui sortir de la tête. Et les 2 prétendants, qui n'étaient pas guerriers, un peu affolés, ont reculé. Mais le valeureux guerrier, lui, au contraire, a dégainé ses armes et a affronté le terrible démon. Ça a été un combat sauvage qui a duré pendant plusieurs heures. Mais finalement, le guerrier a décoché une flèche qui se terminait par une demi-lune au lieu d'une pointe. Et cette demi-lune a fendu en 2 le crâne du démon qui s'est écroulé sur le sol. Alors vite, les 3 prétendants se sont précipités dans la grotte et là, ils ont vu Somaprabha qui était enchaîné éblouis par sa beauté, ils sont restés la bouche ouverte, ils ne pensaient même plus à la délivrer de ses liens. Heureusement, le père de la jeune fille, lui, qui avait l'habitude de voir sa fille, s'est précipité vers elle et l'a libérée. Et ensemble, ils sont tous retournés chez Harisvamin, les trois prétendants en restant en bouche bée à contempler la beauté de Somaprabha, celle qui a l'éclat de la lune. Mais une fois arrivée, une grande querelle a éclaté entre les trois jeunes gens. Le devin a dit « Si je n'avais pas vu où se trouvait Somaprabha, eh bien, le démon sûrement peut-être l'aurait tué et c'est donc moi qui dois l'épouser. » L'artisan magicien a dit « Oui, mais si je n'avais pas construit ce char capable de voler dans les airs, sans doute vous seriez arrivé beaucoup trop tard et le démon aurait dévoré Somaprabha, c'est donc moi qui dois l'épouser. » Le guerrier a dit « Oui, mais si moi je n'avais pas tué ce démon, ça ne vous aurait servi à rien de trouver où était Somaprabha, parce que le démon vous aurait dévoré sans doute, vous n'auriez jamais réussi à la libérer, donc c'est moi qui dois l'épouser. » À ce moment, le vampire caché dans le cadavre a demandé au roi Trivikramasena « Dites-moi, sire, quel prétendant Somaprabha doit-elle épouser ? Si le sachant vous ne parlez point, votre tête éclatera. » Le roi n'a pas hésité une seconde. Il a dit « C'est le guerrier qu'elle doit épouser. » Parce qu'il a mis sa vie en jeu pour combattre le démon. Les deux autres lui ont plutôt servi d'auxiliaire. Et aussitôt, le cadavre s'est envolé des bras du roi et est retourné se percher dans l'arbre. Le roi a fait demi-tour, il est retourné sur ses pas et est allé de nouveau décrocher le cadavre et il a repris le chemin. Voici maintenant un autre conte du vampire. Dans un royaume, vivaient un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Cela les peinait beaucoup, ils sentaient que leur dharma ne s'accomplirait pas s'ils n'avaient pas un enfant. Alors ils priaient la grande déesse Durga. Ils lui offraient des fleurs, des cadeaux et ils la suppliaient de leur envoyer un enfant. Cela a duré pendant plusieurs années, mais enfin, au bout d'un certain temps, la déesse a cédé à leurs prières et la reine a accouché d'un fils. Le roi et la reine étaient fous de joie. Ils ont appelé l'enfant Madhukar. Mais ils ont continué à offrir des cadeaux à la déesse, de riches offrandes, et ils ont appris aussi à leur fils l'histoire de sa naissance et qu'il devait vouer un culte à Durga. Le jeune prince, donc, où qu'il aille, soit en se promenant, soit quand il allait à la chasse, dès qu'il voyait un temple dédié à Durga, il cueillait des fleurs des champs ou des fleurs de lotus, il allait s'incliner dans le temple, prier la déesse, lui offrir ses cadeaux. Devenu adulte, Madhukar s'est marié avec la fille d'un roi voisin, une jeune fille aux yeux de lotus et au caractère enjoué, Kumudiri. Et ils vivaient heureux. Un jour, le frère de la jeune fille est venu leur rendre visite. Ça a été une visite qui a duré plusieurs mois. Puis le jour où il a décidé de rentrer chez lui, Kumudiri a proposé à son mari de l'accompagner puisqu'il rentrait chez ses parents et qu'elle ne les avait pas vus depuis longtemps. Ils sont donc partis tous les trois dans une voiture attelée de chevaux fougueux en direction du royaume des parents de Kumudiri. Et sur leur route, ils sont passés devant un temple dédié à la déesse Durga. Aussitôt, Madhukar a fait arrêter la voiture et il a dit à ses compagnons « C'est Durga, la déesse qui a présidé à ma naissance, je veux lui rendre hommage, je n'en ai pas pour longtemps. » Il a cherché autour de lui et voulait cueillir quelque chose, des fleurs pour les offrir à la déesse, mais il n'y avait rien, pas une seule fleur. Il ne savait pas quoi faire, il est rentré dans le temple. Il a invoqué la déesse et a cherché autour de lui comment il pourrait lui rendre hommage. Et il a vu dans le sanctuaire un sabre que quelqu'un, sans doute, avant lui, avait offert à Durga. Sans plus hésiter, il a saisi le sabre et il s'est tranché la tête pour offrir sa vie à la déesse. Kumudiri, son épouse, et le frère de celle-ci attendaient le retour de Madhukar. Mais ne le voyant pas revenir, le frère s'est décidé à son tour à rentrer dans le sanctuaire. Là, il a vu le mari de sa sœur baignant dans son sang, la tête séparée du corps. Alors il s'est mis à trembler et s'est dit « Sans doute la déesse a exigé la vie de mon beau-frère. Mais comment est-ce que je peux annoncer cette nouvelle à ma sœur ?» Sans plus réfléchir, à son tour, il a saisi le sabre. D'un seul coup, il s'est tranché la tête. Kumudiri attendait toujours. Elle ne voyait revenir ni son frère, ni son époux. À son tour, elle est descendue de voiture, elle est entrée dans le temple et là, dans la semi-obscurité, le spectacle qui s'offrait à elle était un spectacle d'horreur. Les corps de son frère et de son mari, séparés de leur tête, baignant dans leur sang. La jeune femme a éclaté en sanglots. Mais à quoi bon continuer à vivre ? J'ai perdu les deux êtres que j'aimais le plus au monde. Sans doute la déesse veut ma mort. Elle a saisi le sabre et elle allait se le plonger dans la poitrine. Mais à ce moment-là, la déesse elle-même est apparue dans le temple. Dans la semi-obscurité, elle chevauchait son lion. Son visage était paisible et ses vêtements rouges et ses bijoux éclairaient d'une lueur étrange les profondeurs du temple. Avec un geste de bénédiction, la déesse a dit à Kumudiri « Écoute, arrête. Je suis satisfaite des offrandes que vous m'avez faites. » Et je t'accorde une grâce, je t'accorde la vie de ton mari et de ton frère. Replace leur tête sur leur corps et ils reviendront à la vie. » La déesse a disparu et Kumudiri s'est empressée de ramasser les têtes et de les poser sur les corps, aussi vite qu'elle a pu. Et immédiatement, les deux hommes se sont dressés, bien vivants. Mais là, Kumudiri s'est rendu compte qu'elle s'était un peu trop pressée parce qu'elle avait interverti les deux têtes. Le corps du frère portait la tête du mari et le corps du mari portait la tête du frère. « Dites-moi, sire, » a repris alors le vampire, « laquelle des deux personnes est véritablement le mari de cette jeune femme ? Si le sachant vous ne parlez point, votre tête éclatera. » Le roi Trivikramasena n'a pas hésité. Celui des deux qui a la tête du mari, eh bien c'est celui-là, l'époux véritable. Parce que la tête, c'est la partie du corps la plus importante. C'est le siège de la raison et c'est elle qui permet de distinguer un être d'un autre. Quand le roi a eu fini de parler, le vampire a disparu une fois de plus avec le cadavre. Trivikramasena est retourné sur ses pas jusqu'à l'arbre pour le décrocher une nouvelle fois. The Cure pour notre pause musicale. Alors continuons avec les contes du vampire. En voici une troisième histoire. Dans la ville d'Ayodhya vivait un roi très puissant qui s'appelait Viraketu. Et dans cette ville, il y avait aussi un marchand, sa femme et leur fille Ratnavati. En grandissant, Ratnavati est devenue si belle et si pleine d'esprit et de charme que non seulement les plus riches marchands, mais aussi même des princes sont venus la demander en mariage. La jeune fille les recevait, elle parlait un petit peu avec eux, mais aucun n'a fait battre son cœur. Alors elle a interdit qu'on lui parle mariage à l'avenir et elle a affirmé qu'elle préférerait mourir que d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Son père se désolait, bien sûr, mais le bruit s'est répandu dans toute la ville que la belle Ratnavati refusait de se marier. Et voilà qu'un voleur s'est mis à dévaliser les marchands les plus riches de la ville, et toutes les personnes les plus riches. Il opérait la nuit, les marchands sont allés se plaindre au roi. Le roi a envoyé ses gardes, mais les gardes ont eu beau veiller et arpenter les rues de la ville en pleine nuit, ils n'arrivaient pas à attraper ce voleur qui était extrêmement habile. Et le voleur continuait à piller sans vergogne tous les riches. Alors le roi s'est dit, mais vraiment, je suis entouré d'incapables, c'est pas possible, il faut que je m'en occupe moi-même. Une nuit, il s'est déguisé, il a mis un grand manteau et il est parti dans les rues sombres de sa ville. Il a rôdé à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette qui se faufilait sans bruit le long des remparts en jetant des coups d'œil furtifs à droite et à gauche. Oh, le roi s'est dit, ce pourrait être mon voleur. Alors, il a fait de même. Il s'est approché en rasant les murs, en regardant à droite, à gauche. Le voleur n'a pas tardé à l'apercevoir. Et il s'est glissé jusqu'à lui, il lui a dit, qui es-tu ? Et je suis un voleur comme toi, a répondu le roi. L'autre l'a regardé de près, lui a dit, bon, si tu es un voleur, tu es mon frère, viens chez moi, je te traiterai bien. Le roi, tout content, a accessé, bien sûr. Ouais, il a suivi le voleur jusqu'à sa maison. C'était une caverne dans la forêt. Quand le roi est rentré dans la caverne, il n'en croyait pas ses yeux. Il a vu des richesses, toutes les richesses que le voleur avait dérobées à droite et à gauche. Il y avait des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Puis le voleur lui a offert un siège et il a fait signe à une jeune fille de lui apporter à boire. Il a disparu dans les pièces à l'arrière, dans une salle au fond. Alors la jeune servante s'est approchée du roi, elle lui a murmuré, « Seigneur, vous êtes fou, ce voleur va vous tuer, il est en train de discuter avec les autres, qu'est-ce qu'il va faire de vous ? Partez vite, fuyez !» Le roi, sans plus attendre, est sorti de la grotte et aussi vite qu'il a pu, il est retourné dans son palais chercher son armée. Alors, ils sont revenus, ils ont encerclé la caverne. Les voleurs ont essayé de s'en sortir et ils sont sortis, mais ils se sont trouvés face à l'armée du roi. Et ça a été, la plupart sont morts très rapidement, il n'est resté que le chef des voleurs, celui qui avait attiré le roi chez lui. Et lui était bien décidé à se battre jusqu'à la mort. Et seul, armé d'une épée et d'un bouclier, et il tranchait les pattes des chevaux, les trompes des éléphants, et il faisait voler les têtes des soldats. Et à lui seul, il a détruit une grande partie de l'armée du roi. Alors, le roi a foncé sur lui, l'épée à la main. Ça a été un combat terrible. Et finalement, le roi a fait sauter l'épée du voleur. Puis, il a laissé tomber sa propre épée, et ils se sont battus à main nue. Toute la nuit, ils se sont battus. Mais enfin, au petit matin, le roi a réussi à plaquer le chef des voleurs au sol et à le ligoter. Alors il a fait signe à ce qui restait de sa troupe Et il leur a ordonné d'emmener le voleur en prison, au cachot, et qu'il soit brûlé vif le lendemain matin en public. Le lendemain matin, au son du tambour, le voleur a été conduit au lieu d'exécution. La fille du marchand, la belle Ratnavati, celle qui ne voulait pas se marier, était à sa fenêtre, comme tous les habitants de la ville, pour voir passer celui qui était déjà devenu une légende, celui dont on avait raconté le combat héroïque, dont on avait raconté qu'il avait, après avoir pillé les maisons de la ville, qu'il avait combattu avec courage contre le roi lui-même, qu'il avait combattu pendant des heures et qu'il ne s'était incliné qu'au bout d'un combat terrible. Et au moment où le voleur, tout couvert encore de poussière et blessé, passait sous les fenêtres de Ratnavati, il a levé les yeux et son regard a croisé celui de la jeune fille. Alors elle a senti son cœur qui se mettait à battre dans sa poitrine. Et aussitôt, elle est allée trouver son père. Elle lui a dit « C'est lui, c'est lui ». Celui que je veux épouser, c'est lui, celui qu'on conduit au supplice, va demander sa liberté au roi, et si tu ne l'obtiens pas, moi, je veux mourir avec lui en épouse fidèle. Mais tu es devenue folle, a dit le marchand, mais tu as refusé les prétendants, les plus vertueux, et tu voudrais épouser un infâme voleur qui nous a pillés. Mais la jeune fille était inflexible. Elle n'a pas changé d'avis. Le marchand qui connaissait sa fille savait que ce n'était pas trop la peine de discuter. Alors il s'est rendu en toute hâte auprès du roi. Il a dit « Majesté, je vous supplie de laisser la vie sauve à ce voleur. Moi, en échange, je vous donne toute ma fortune parce qu'il y va de la vie de ma fille. Ma fille qui a refusé des princes et qui mourra si elle ne peut pas se marier avec cet homme-là. » Le roi a refusé. Le voleur était courageux, certes, il s'était battu comme un lion, mais il avait mis la ville à sac et pour cela, il devait être puni. Alors le marchand est retourné, la tête basse, avoué à sa fille qu'il n'avait pas réussi. Ratnavati s'est préparée à mourir. Elle a fait ses dévotions, puis elle s'est élancée vers le lieu du supplice. Le voleur, lui aussi, se préparait à mourir dans les flammes du bûcher. Et soudain, il y a eu sur la place une grande agitation. C'était la jeune fille qui arrivait avec ses amis qui essayaient de la retenir, son père aussi, et puis toute la foule qui se pressait là sur le lieu du supplice. La foule a murmuré. Le voleur, voyant que demandait ce qui se passait. Alors on lui a raconté que le marchand qu'il avait envolé avait proposé au roi toute sa fortune en échange de sa vie, et puis que sa fille qui avait refusé des princes, eh bien, était tombée amoureuse de lui, un voleur, et qu'elle était prête à mourir avec lui sur le bûcher. À ce moment, le voleur s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps, à gros sanglots, puis il a éclaté de rire. Il s'est mis à rire et riait aux éclats quand les flammes du bûcher ont monté jusqu'à lui et l'ont entouré. Et à cet instant, le ciel s'est ouvert et le dieu Shiva en personne est apparu entouré d'un cercle de flammes. Ratnavati, qui s'apprêtait à se jeter dans le bûcher avec son amoureux, est resté figé. Le dieu a parlé. Shiva a dit « Ta dévotion mérite une faveur. Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorde. » Sans hésiter, Ratnavati s'est inclinée. Elle a dit « Seigneur, je te prie de m'accorder la vie de cet homme et qu'il vive désormais fidèle à la loi morale. » Qu'il en soit ainsi, ton époux aura la vie sauve, et il sera fidèle à la loi morale et le roi désormais sera content de lui. Et les flammes du bûcher se sont éteintes d'un coup. Le dieu a disparu. Ratnavati s'est empressé d'aller libérer son fiancé. Et le roi lui-même s'est réjoui de l'issue de l'aventure, puisque le courage de ce voleur l'avait ému, et il l'a nommé commandant de son armée. Le voleur a abandonné son ancien métier et il a célébré son mariage avec sa belle fiancée à qui il devait la vie. Honoré par le roi, et il s'est fort bien acquitté de ses fonctions et il est demeuré dès lors dans le droit chemin. « Dites-moi, sire, » a dit le vampire. Le voleur sur le bûcher a d'abord pleuré, puis ensuite il a éclaté de rire. Pourquoi ? Sans hésiter, le roi Trivikramasena a répondu. Et il a pleuré, c'est simple, il a pleuré de chagrin. Il a pleuré parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais payer la dette de reconnaissance qu'il avait envers ce marchand si généreux qui était prêt à sacrifier sa fortune pour la vie d'un voleur qu'il avait pillé sans vergogne. Et il a ri parce que de voir cette jeune fille qu'il avait préférée, lui, le voleur condamné à mort, à tous les princes qui étaient venus se jeter à ses pieds, en se disant que vraiment le cœur des femmes était étrange. À ce moment, le vampire a disparu et le roi est reparti à sa recherche. Et je crois que c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. D'aujourd'hui venaient tous des contes du vampire. Alors il y a plusieurs éditions. Moi je me suis servi de l'édition Connaissance de l'Orient. Il y a aussi Catherine Zarkat qui a fait une version pour la jeunesse chez Cyros de ses contes, quelques-uns de ses contes. Et il y a chez Grund les contes de l'Inde, quelques-uns des contes du vampire. Merci beaucoup. Et au mois prochain avec « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Sophie au micro, Pierre à la technique, sur Radio Saint-Ferréol 94.2.